Vous êtes sur RTL. Vous. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour Alba Ventura.
Il y a 6 mois, vous menaciez les Anglais de mesures de rétorsion s'ils ne respectaient pas les accords du Brexit dans le dossier de la pêche notamment. Il y a 1 mois, vous disiez mettre à exécution ces mesures de rétorsion. Ça devait être imminent, je crois, le 2 novembre. Je rappelle qu'il manque 150 licences aux pêcheurs français pour pouvoir travailler dans les eaux britanniques. Et vous disiez qu'il fallait parler le langage de la force avec les Anglais. Puis, vous avez mis ces menaces en suspens. Puis, vous avez dit à la Commission européenne de prendre sa part dans la négociation. Puis, maintenant, vous dites, si dans 10 jours, il n'y a rien, on arrête le dialogue. Ça va durer encore longtemps, le manège ?
Écoutez, ce n'est pas un manège, parce qu'on parle de la vie de nos pêcheurs, de leur activité économique.
Ils se sentent trahis par vous,
disent les pêcheurs
français.
Moi, je les ai vus beaucoup. Je sais qu'il y a des tensions et des difficultés, c'est normal. Il y a aussi des polémiques politiques, ça, je le comprends moins. Mais les pêcheurs, ils veulent bosser et ils veulent leur activité. Et donc, moi, je ne joue pas avec cela, parce que il faudrait chercher des provocations. J'ai été extrêmement sérieux, nous avons été extrêmement sérieux avec la ministre de la Mer et le président de la République, les Britanniques le savent, et c'est parce qu'on a haussé le ton qu'on a obtenu d'ores et déjà 60% de nos licences par étapes successives, et c'est parce que nous avons haussé le ton fin octobre, début novembre, qu'on a repris un dialogue.
Mais là, il y a des pêcheurs qui se demandent s'ils ne vont pas fermer boutique.
Non, ils ne vont pas fermer boutique. D'abord, en attendant, je le redis, parce que c'est évidemment important, on les accompagne financièrement depuis le 1er janvier, mais ils veulent reprendre une activité économique. On a négociation qui s'est beaucoup accélérée et nous avons aussi haussé le ton, je le dis très franchement, à l'égard de la Commission européenne, parce que c'est pas un sujet franco-britannique, c'est le respect des accords européens avec le Royaume-Uni. Cette Commission européenne s'est beaucoup plus impliquée. Il y a des réunions maintenant, ça fait seulement quelques jours, tous les jours. Il y en aura encore une avec la Commission européenne et les Britanniques cet après-midi. Et nous avons, je l'espère, je le dis avec prudence, parce qu'on ne joue pas avec des illusions, qu'il y a sur Guernesey notamment, qui est un des problèmes dans les îles anglo-normandes, des avancées importantes, je l'espère, cette semaine. Mais c'est très clair, maintenant c'est la Commission européenne qui a fixé pour la première fois cette date limite du 10 décembre, voilà. Elle l'a dit publiquement, et c'est la Commission européenne qui a dit aux Britanniques, donc toute l'Europe ensemble, si vous n'avez pas fait des gestes forts avec beaucoup de licences d'ici le 10 décembre, on n'est plus dans un dialogue européen.
Mais donc si le 10 décembre il ne se passe rien ou vous n'avez pas obtenu les licences, il y aura des mesures de rétorsion. Par exemple, est-ce que vous interdirez aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français ?
Ça fait partie des options possibles, mais ce qui serait mieux, pour être tout à fait honnête, c'est d'avoir des mesures européennes. Ça serait que l'Union européenne dise, sur le plan commercial, on restreint un certain nombre d'accès, on engage des procédures juridiques, parce que, encore une fois, et c'est ça qui a changé, c'est maintenant un débat entre l'Union européenne tout entière et le Royaume-Uni,
donc,
nous disons, on respecte l'accord.
Vous vous en remettez à l'Union européenne.
Et nous soutenons nos pêcheurs en attendant, et nous avons toutes les options sur la table, parce que c'est mieux de dialoguer, mais on l'a fait à plusieurs étapes, si le dialogue ne porte pas ses fruits, on est toujours sérieux là-dessus, on pourra prendre des mesures européennes.
Le langage de la force, ça ne marche pas avec Boris Johnson, il se moque de nous ?
Écoutez, je ne sais pas s'il se moque de nous, mais je sais que Boris Johnson et le gouvernement britannique ont décidé d'être obsédés par l'Union européenne. Quand il y a quelque chose qui marche bien chez eux, ils disent c'est mieux que dans l'Union européenne. Le vaccin, c'était mieux que dans l'Union européenne. Maintenant, c'est l'Union européenne qui est devant. Bon. Et puis, quand ça marche pas, c'est la faute de l'Union européenne. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est pas de notre faute à nous s'il y a des pénuries au Royaume-Uni. C'est pas de notre faute à nous s'il manque 100 000 chauffeurs routiers.
Mais on voit bien que dans le dossier des migrants aussi, Boris Johnson se moque de nous. Clément Beaune, vous avez peut-être entendu le témoignage de l'un des 2 survivants du naufrage dans lequel 27 migrants ont trouvé la mort. Il s'est exprimé à la télévision kurde. Il dit « Nous avons envoyé notre localisation à la police française et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous aider. Vous êtes dans les eaux britanniques. Alors nous avons appelé la Grande-Bretagne, mais ils ont dit d'appeler la police française. Il n'y a pas de coopération ?»
Si.
S'il y avait une coopération, il ne serait pas mort.
S'il y a une coopération, on va voir exactement, parce qu'il y a une enquête, ce qui s'est passé dans ce cas-là qui est dramatique. Je veux quand même dire que c'est les sauveteurs français qui ont malheureusement repêché des corps et qui sont intervenus, qui tous les jours...
Mais c'est vrai qu'ils ont dit au départ que vous n'êtes pas dans les eaux françaises ?
Je ne le sais pas. Nous allons essayer d'établir tout ce qui s'est passé, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nos sauveteurs, dès qu'il y a un problème, dès qu'ils ont une intervention, ils interviennent. Depuis le début de l'année, vous savez combien de personnes ont sauvé ? Près de 8 000 qui ont malheureusement risqué leur vie, et que grâce à nos sauveteurs, qui parfois risquent la leur, nous avons réussi à sauver.
Mais
ce sont les sauveteurs français qui sauvent aujourd'hui dans les eaux de la Manche.
Pour éviter ces naufrages-là, on fait quoi ?
Alors d'abord, il faut dire ce qui s'est passé depuis quelques années. Il y a une coopération franco-britannique qui, sur le terrain, marche bien. Nous avons sécurisé, par exemple, le tunnel sous la Manche, où il y a aujourd'hui très peu de passages. C'est pour ça qu'il y a une forme de report, parce que malheureusement, les trafiquants d'êtres humains se réorganisent par ce qu'on appelle ces petites embarcations, qui sont d'ailleurs de plus en plus grandes, et qui traversent la Manche. Ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi une coopération policière européenne et franco-britannique sur le terrain pour démanteler les réseaux de passeurs, pour intercepter avant le départ beaucoup de personnes qui prennent la mer. Et aujourd'hui, plus de la moitié des personnes qui tentent de passer, nous les interceptons avant qu'elles embarquent. Donc on ne peut pas dire, et ça je ne laisserai pas le dire, que nos forces de l'ordre qui sont mobilisées jour et nuit ne font rien. Ça n'est pas le cas. Elles se mobilisent pour limiter, empêcher cette immigration illégale.
Les associations vous demandent des voies de navigation légales, d'ouvrir des voies de navigation. Ça, c'est possible? Ce serait possible immédiatement?
Mais ça, je vais être très précis. C'est aux Britanniques de le faire. Un des drames aujourd'hui, c'est que les personnes qui veulent traverser, elles veulent demander l'asile au Royaume-Uni. Nous leur proposons de le faire en France, elles ne le veulent pas, parce qu'au Royaume-Uni, le travail, parfois au noir et parfois clandestin, est plus facile. Et les Britanniques n'ont jamais ouvert de voie légale de migration, même l'asile. Et donc nous leur disons, nous pouvons bien travailler avec vous, mais il faut ouvrir cette capacité à aller au Royaume-Uni pour du regroupement familial ou de l'asile, comme le font tous les pays européens.
Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, nous sommes le 1er décembre. Dans un mois, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne. Ça va durer 6 mois. Que peut faire un président en campagne présidentielle à la tête de l'Europe?
D'abord, un président, s'il est en campagne, il est...
Ah bon?
D'abord,
il y a un doute?
Non, s'il sera en campagne. Moi,
quand il sera en campagne?
J'ai un doute sur le fait qu'il le soit, parce que c'est à lui de le décider. Mais j'ai aucun doute sur le fait que je le souhaite. J'espère que ça arrivera. Et il y a le moment qui viendra pour rentrer dans une phase de campagne. Mais quoi qu'il arrive, un président, c'est déjà arrivé dans le passé, qui est en campagne, c'est un président qui préside la France jusqu'au bout et à chaque instant. Et c'est un président qui, en l'occurrence, préside l'Europe pendant... quelques mois au moins.
Et avec quelles priorités?
Avec des priorités qu'on porte en réalité depuis 4 ans. J'en cite quelques-unes pour illustrer très concrètement ce qu'on peut faire pendant une présidence. Le climat, ambition européenne majeure. C'est la France qui a dit l'Europe doit être neutre en carbone en 2050. Avoir par exemple une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour que les Chinois, les Américains, quand ils exportent vers chez nous, payent la même chose que nos entreprises.
C'est notamment sur ce sujet que le président va se battre.
Mais sur des sujets qui font le modèle européen, c'est-à-dire une régulation juste, une compétition internationale qui soit régulée, ça vaut pour les géants du numérique, ça vaut pour lutter contre le dumping social, ça vaut pour lutter contre les pratiques environnementales à l'extérieur de l'Europe qui sont terribles pour notre industrie et qui polluent en Europe.
Il y a aussi l'épidémie de Covid avec ce variant Omicron. Vous aviez, comme d'autres pays, suspendu les vols en provenance d'Afrique australe. Ces vols devaient reprendre. Ça s'arrête ou pas?
Alors nous avons prolongé ce matin même la suspension des vols depuis 7 pays d'Afrique australe jusqu'à samedi. Nous avons suspendu...
Toujours pas de vol entre l'Afrique australe et la France.
Toujours pas de vol.
Jusqu'à samedi.
C'est suspendu jusqu'à samedi. Et aujourd'hui, 23 pays européens, donc cette coordination a marché cette fois-ci, qui ont pris les mêmes mesures de restriction d'accès ou de suspension pure et simple des vols. Nous sommes très stricts là-dessus. Et ensuite, parce que parfois on a des ressortissants français qui doivent revenir, on ne peut pas vivre dans un monde où il y a zéro vol, zéro moment. Et donc nous aurons un protocole extrêmement renforcé, que nous sommes en train de définir en coordination avec nos partenaires européens pour être plus efficace, d'ici samedi, qui correspond à ce qu'on appelle les pays en liste rouge, c'est-à-dire test à l'arrivée, test au départ, isolement, et nous irons sans doute encore plus loin pour exiger probablement des tests, y compris pour les personnes vaccinées, pour vérifier que le variant est isolé, identifié, et qu'il ne rentre le moins possible, évidemment, sur notre territoire.
Éric Zemmour, et c'est sur TF1 après sa déclaration de candidature hier. Ceux qui me reprochent aujourd'hui d'exacerber les tensions, ce sont eux qui mettent le feu depuis 30-40 ans. Clément Beaune, avec d'autres mots, Emmanuel Macron a aussi souvent fustigé ceux qui, par le passé, n'ont pas agi. Il a raison, Éric Zemmour, de dire ça?
Mais si c'est pour dire qu'il y a des difficultés, des tensions en France, on n'a pas attendu Éric Zemmour pour le constater. Mais quand vous regardez ce clip, qui est une sorte d'indécence et de façon d'attiser la haine le plus possible, c'est une description apocalyptique de la France. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que tout chez Éric Zemmour est négatif, désespéré, rabougri, triste, centré sur sa personne. C'est frappant, même quand il fait une interview hier au journal de 20h, il répond à des questions, comme ça arrive, comme je le fais ce matin, puis il sort et puis il dit « on m'a pas laissé ma liberté de parole », etc. Tout ça est une mise en scène absolument grotesque, mais surtout, il n'y a jamais de paroles d'avenir, de paroles d'espoir, de projets pour la France. Il se présente au suffrage des Français et il leur dit « on est foutu ». Moi, je pense que quand on est candidat à l'élection présidentielle, il aspire à cette lourde responsabilité, on peut dire qu'il y a des problèmes. Mais on n'est pas là pour avoir une prescription médicale. On est là pour savoir comment on se guérit, comment on améliore les choses. Il n'y a jamais une parole de cette nature chez M. Zemmour.
Merci beaucoup Clément Beaune.
Merci à vous.
Ce sont les sauveteurs français qui sauvent des vies dans la Manche, vient de nous dire Clément Beaune, près de 8000 depuis le début de l'année. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr.